parti le 14 juin 1951 du camp 6, dans la partie ouest de la calotte glaciaire du Groenland, le groupe sismique bleu, celui de José, est arrivé le 27 juin au point extrême sud de son trajet. Il s'est arrêté exactement au point porté théoriquement sur la carte avant le départ de France, en vue des Jensen Nunataka par 62 45 minutes nord et 49 degrés ouest. Les six hommes ont parcouru environ 800 km. Ils ont fait des sondages sismiques tous les 20 à 25 km. Ils ont eu du mauvais temps. Ils ont rencontré des crevasses et des bosses et ont dû changer leur route plusieurs fois pour les contourner. Mais rien de particulier, ce à quoi ils pouvaient s'attendre, rien de plus. Leurs véhicules chenillés, les Wiesel peints en orange, ont crevé des ponts de neige 20-30 fois. Ils ont vu des trous béants s'ouvrir sous leurs chenilles, véritables ogives de cristal au sommet desquels ils sont restés suspendus. Ils ont toujours pu, plus ou moins facilement, récupérer véhicules et traîneaux sans perte. Le 27 juin, tout était conforme au programme. Il faisait beau sur eux. Un parachutage était prêt à partir pour les ravitailler comme prévu. Des vivres pour 3 semaines supplémentaires, le courrier et 4000 litres d'essence environ pour leur permettre de se remettre en route immédiatement pour la continuation de leurs travaux et de se trouver au prochain rendez-vous avec l'avion 800 km plus loin et 15 jours plus tard. Mais ils n'étaient pas prêts à recevoir ce parachutage. Quelques jours plus tard, en effet, ils demandaient plusieurs centaines de boulons pour réparer leur traîneau, fatigués par le terrain rencontré et par plusieurs années de campagne. Après le 27 juin, le mauvais temps sévit sans cesse sur eux. Depuis 3 semaines, ils sont coincés. Quelques heures d'éclaircies, de temps à autre, n'ont pas permis à l'avion de prendre son vol avec une chance de succès suffisant. Plus de 1300 km les séparent en effet de Reykjavik, point de départ du DC-4, plus de 4h30 de vol, assez d'heures pour voir le temps changer plusieurs fois. Le 10 juillet, Rouillon, le chef d'expédition sur le terrain, m'envoie le télégramme suivant. Temps été 1951, toujours mauvais, à l'intérieur de l'Inlandsis. Stop. Actuellement, tout groupe en retard sur plan prévu, faute de parachutage. Stop. Vous rappelle, aucun parachutage depuis le 11 juin, c'est-à-dire plus d'un mois. Vincent Don et moi, nous le savons bien. Nous passons tout notre temps, presque 24 heures sur 24, entre le bureau météo de la tour de contrôle du terrain de Reykjavik et les télétypes de la Flugfélag, la compagnie islandaise d'aviation qui assure nos parachutages lorsque son Skymaster DC-4 n'est pas pris par son vol hebdomadaire vers l'Angleterre. Les cartes de prévision ne changent guère depuis plusieurs semaines. Une zone de basse pression se forme et se dissout ou se déplace lentement le long de la pointe sud du Groenland. Les postes des côtes annoncent régulièrement de la pluie, de la neige, une visibilité presque nulle, un plafond bas. Les éclaircies ne durent que quelques heures. Il neige aussi sur le groupe bleu. Dès qu'un coin de ciel apparaît, José télégraphie. Conditions s'améliorent et comptons absolument sur vous immédiatement. Mais 2 heures plus tard, son QAM, son état du temps, annonce une fois de plus des nuages à quelques centaines de mètres au-dessus de lui et une visibilité de quelques kilomètres seulement. Quand le soleil transparaît et que les nuages semblent se dissiper, « Beau temps, qu'attendez-vous pour venir ?» télégraphie José. Ce qu'il ne sait certainement pas, c'est que tout autour de lui, le temps est bouché. God Hope, Marak, BW-8, BW-1, Prince Christian Sund, Tingmyarmiut, Angmassalik, tous annoncent un temps épouvantable. La basse pression qui s'est dissipée se reforme. Les fronts viennent déverser leurs crachins sur l'Islande. Des avions prennent la piste, font leur point fixe et ne peuvent décoller. Les nuages sont descendus sur eux en quelques minutes. Un Catalina de la marine danoise a attendu 11 jours pour s'envoler vers BW-1. À midi, il ne fait guère plus de 10 degrés à Reykjavik. Et nous sommes en juillet. Partir d'ici pour faire 1300 km sans pouvoir se repérer avec précision sur l'une des deux côtes, c'est jouer à 1 contre 10 et risquer de revenir à pleine charge sans avoir pu les trouver après une dizaine d'heures de vol pour rien. Et 10 heures de vol d'un DC-4 Skymaster, quadrimoteur qui, 3 fois par semaine, fait la ligne transatlantique, cela coûte un peu plus cher qu'un Piper Cub. Car aucune autre navigation n'est sûre dans ces régions proches du pôle nord magnétique, hors de la portée du Loran nord-atlantique. La navigation au compas est incertaine, les points calculés lorsque le temps le permet donnent une précision insuffisante. Pour ce vol particulier, nous avons 350 km à faire sur un désert plat, blanc, aveuglant, sans un point de repère, sans un seul point de repère suffisant même pour mesurer la dérive de l'avion. Temps très mauvais en général ici cette année, stop, S'y pouvons pas profiter, premier beau temps, campagne compromise, télégraphie José. C'est vrai, c'est sérieux. Après les succès enregistrés les années précédentes, ce serait pour le moins ennuyeux, pour ne pas dire plus. Il serait difficile de faire comprendre à Paris qu'une expédition polaire est un énorme coup de poker que l'on joue contre les conditions rencontrées. Rien ne doit y être laissé à l'imprévu, mais tout y est imprévisible. Si pas parachutage avant 12 jours seront obligés à abandonner matériel et tenter gagner côte à pied, télégraphie José. Non. Le terrain d'aviation de BW-1 et ses avions de l'Air Rescue américaine ne sont qu'à une heure de vol de José. En 1951, il n'y a plus aucune raison d'abandonner du matériel pour tenter de descendre à la côte à pied. Un seul Dakota peut leur apporter, lors d'une courte éclaircie, tout ce qu'il faut pour tenir un bon mois supplémentaire. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Malheureusement, nous ne sommes pas à BW-1, base américaine, mais à Reykjavik. Nous ne sommes pas à une heure de vol, mais à plus de 4 heures. À la météo, les cartes de prévision ne changent guère. Les basses pressions continuent leur balai. Il y en a partout, plus ou moins grandes. Du matin au soir, elles se déplacent légèrement, se dissipent ou se reforment. Sur Reykjavik et sur toute l'Islande, un front passe. Il pleut, il crachine. Le vent emporte de gros paquets d'herbes mouillées, fraîchement coupées dans les petits prés qui émaillent la ville et où broutent quelques vaches et des poneys, tous tournés dans la même direction, face à la pluie et au vent. La côte ouest du Groenland baigne dans les nuages qui sont devenus brumes sur les bulletins météo. Pas de visibilité, pas de plafond. Les quelques postes de la côte est sont plus sombres encore. Quant à José et à la station centrale, ils sont en plein dans la tempête de neige. Mercredi 18 juillet 1951, midi. Il neige toujours sur José et sur la station centrale. Il pleut toujours sans visibilité et sans plafond sur les postes côtiers du Groenland. Il crachine toujours sur Reykjavik. Tous les bulletins météo sont pareils alors qu'ils apparaissent lentement sous la frappe du télétype. God Hope, pas de visibilité, pas de plafond, crachin. BW-1, pas de visibilité, pas de plafond, brume. Tingmiarmiut, visibilité 1 000, plafond 300 pieds, pluie. Angmasalik, visibilité moins d'1 000, plafond 100 pieds, neige fondante. Karlusuak, visibilité 1 000, plafond 60 pieds, neige. Baker, visibilité 30 000. Sur la feuille jaune, les touches ont bien marqué 30 000. 30 000 ? Oh, Vincent Don ! Voilà. Vincent Don, Gudmund Jacobson, le météo de service, et moi, tendus sur le papier qui avance par secousse, nous suivons anxieusement la suite du message. 2/8 de nuages à 10 000 pieds, pression en montée rapide. Nous nous regardons. Baker, c'est la frégate météo B. Elle est située dans le sud-ouest du Cap Farvel, la pointe la plus sud du Groenland. Elle annonce qu'il fait beau au-dessus d'elle, qu'il se forme là un high, une zone de haute pression venant du sud-ouest, que l'air y est sec. Il y a longtemps que nous n'avons pas vu ça. Voilà qui est meilleur, dit Jacobson flegmatique. Si cela se maintient, que le high monte vers le Groenland, on peut prévoir une sérieuse amélioration sur le camp José pour demain. La situation de 14 heures confirme l'amélioration sur Baker. Ciel sans nuages, pression en hausse continue. Mais partout, sur le Groenland, le temps reste inchangé. Il neige dru sur José et sur la station centrale. On les prévient ? On les prévient. À 14h45, Vincent envoie le message suivant à José. Prévision météo bonne sur toi demain. Stop. Allons décoller avec DC-4 dès que QAM donneront amélioration prévue. Stop. Il faut absolument que, quel que soit le temps, tu donnes tes QAM toutes les 3 heures et, si possible, toutes les 2 heures pour suivre l'évolution du temps sur BW-1 et sur toi. Stop. Espérons que ça va aller. Stop. Si échec demain, enverrons Dakota ou Catalina. Amitié de tous, comptons absolument sur tes QAM. Vincent Don, envoyé à 14h45. José, qui est en plein dans la crasse, doit se dire que nous rêvons. Et c'est d'heure en heure maintenant que nous suivons l'évolution du temps. Pas de changement sur le Groenland, mais sur Baker, pas un nuage et la pression continue à monter en flèche. Air sec, tout va bien. Le soir, même situation. La haute pression n'a pas encore atteint la pointe sud du Groenland, elle ne saurait tarder. Nous sommes accrochés au téléphone, au télétype ou penchés sur la carte de prévision. Ding, 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 fait la sonnerie du télétype dans le loft de la Flugfélag. Vincent Don et moi, nous nous précipitons. 9 fois sur 10, c'est un message qui ne nous concerne pas. À New York, il fait beau, il pleut sur Prestwick ou sur Copenhague. À 21h, la pression commence à monter à BW-1. 3 dixièmes de millibar en 3 heures. Depuis des jours, elle était restée lamentablement basse, noyée dans les limites inférieures. « On charge l'avion ?» demande Vincent Don. À minuit, le plafond commence à s'élever à BW1, où la pression monte encore de 4 dixièmes de millibar, mais partout ailleurs, pas de changement. Jeudi 19 juillet, 9h du matin. BW1 annonce 7 huitièmes de nuages à 1500 pieds au lieu des 8 huitièmes à 300 pieds habituels. La pression monte toujours et José, laconique car incrédule probablement, envoie « Neige, pas de visibilité, pas de plafond, mais la pression a monté de 808 millibars à 3h du matin à 816 millibars à 6h. Le temps s'éclaircit sur la côte et la pression monte au-dessus de José, ça va. » 9h du matin. Dans moins de 24 heures, demain à 8h, l'avion doit partir pour Copenhague pour transporter ses passagers réguliers et pour y procéder à un changement de moteur dont le travail doit irrémédiablement commencer à 17h. Et il ne sera pas de retour avant 3 jours pleins. José attend depuis le 27 juin, depuis 23 jours. Si nous ne faisons pas ce vol d'ici le départ de l'avion, d'ici 24 heures, quand le temps sera-t-il favorable à nouveau ? 24 heures pour gagner ou perdre. Quelle partie de poker ! 24 heures pour gagner ou perdre. À midi, toutes les stations de la pointe sud du Groenland donnent une amélioration sensible. Plafond plus haut, pression croissante. Certaines n'ont déjà plus que 7 huitièmes et même 6 huitièmes de nuages. Mais il neige toujours sur José, où la visibilité est nulle et le plafond à quelques mètres. Mais la pression est de 817,3 millibars. Frederikshope, à 100 km à peine de là, voit le ciel à travers les nuages. Frederikshope est sur la côte. Le groupe bleu est à 1700 mètres d'altitude sur la calotte glaciaire. Et soudain, le QAM de 14 heures nous ouvre les portes de l'espoir. Victor de OYD3, c'est le signal de José. 14 heures, visibilité 40 000, plafond 300 pieds, nuages 4 huitièmes, vent du sud-ouest 5 nœuds. Vincent Don, votre chargement est paré ? Oui, bien sûr. Bon, alors, on y va aussitôt prêt. Je m'assieds devant le télétype et le mets en route. Son ronronnement accompagne le bruit de la frappe et de sa sonnette. Et je tape le message tant attendu. De Victor à José, décollerant 16h30, préparez la dropping zone pour 20h30. Envoyez vos QM toutes les 3 heures. À bientôt, amitié.